Alléluia. Gloire à Dieu. Comment allez-vous? Un petit peu de déménagement. Voilà. Alors, on va voir si cet instrument fonctionne. Oui, ça marche. OK. Alors, effectivement, très très heureux d'avoir pu déjà rencontrer quelques-uns de vous, d'être allé vous voir, chez vous. Et c'est vraiment une joie d'apprendre à vous connaître, de pouvoir échanger avec vous. Et si tel est votre souhait, n'hésitez pas à remplir donc la petite fiche, comme cela a été indiqué par le pasteur Fern. Et je me ferai une joie de vous contacter et de passer vous voir au moment qui vous sera le mieux. Et merci, merci à ceux et celles qui ont participé à cette rencontre de partage. Mercredi dernier, ça a été un moment de bénédiction, alléluia. Et nous étions vraiment étonnés, et ça fait chaud au cœur, mon épouse et moi-même, de voir autant de personnes qui ont fait le déplacement pour cette réunion de partage avec les frères. On a pu mieux se connaître avec les témoignages, les sœurs également. Et c'est une grâce de Dieu de voir le temps que vous mettez à part pour venir à l'église. Nous avions cette pensée avec mon épouse, on disait, avec toutes les occupations qu'il y a, avec le travail, tout ce qu'il y a, on peut avoir des semaines, des journées chargées. Est-ce qu'il y aura du monde qui va venir? Et quand on a vu le nombre qu'il y avait, on a été étonné. Gloire à Dieu. Merci à vous pour le temps que vous mettez. Et si chaque mercredi soir, vous mettez ce temps à part, je crois que le Seigneur vous bénira et que le Seigneur bénira cette église de Centre Nouvelle Vie chez Diac. Je ne sais pas si il y a certains qui sont déjà allés, qui ont déjà la curiosité d'aller sur notre page Facebook Centre Nouvelle Vie chez Diac. Mais s'il y en a qui sont allés, vous avez pu voir déjà le thème de ce matin. Et vous avez pu voir ce thème, l'Église, une équipe qui gagne. Alors, vous voyez l'image un peu, ça vous parle? J'ai amené un petit instrument pour que ça parle mieux. Hein? Voilà. Un sport auquel j'ai été initié par vous. Ça a été ma première fois, je ne sais pas encore jouer, malheureusement. Mais j'ai, en participant à cette journée de l'église, j'ai appris beaucoup de choses. Alors mes coachs ne sont pas là ce matin, Arthur et Monique, mais j'ai pu apprendre beaucoup de choses. La main droite devant la main gauche, genou fléchi, on vise la balle, et on swing. Mais là je ne peux pas faire avec le costume, c'est pas évident. On swing. Et ça m'a quelque peu inspiré et encouragé au niveau de l'Église. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de similitudes entre ce qui se pratique dans le golf, j'aimerais dire votre golf, moi je ne le connaissais pas, et l'Église. Et c'est ce que nous allons voir ce matin au travers de l'Église, une équipe qui gagne. Est-ce que vous croyez que l'Église est l'équipe qui gagne? Oui? Oui. Alors, ouvrons la parole de Dieu ensemble. Vous avez déjà ce verset qui est affiché sur votre bulletin, mais si vous avez la Bible, ouvrez-la. Un Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Voilà ce qui est écrit. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. L'apôtre Paul s'adresse à l'Église en disant, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, le contexte ici dans 1 Corinthiens 12, c'est un contexte qui nous parle des dons spirituels. Est-ce que, si je vous parle des dons spirituels, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, les dons spirituels. Les dons spirituels, eh bien, Paul établit dans ce chapitre la doctrine des charismes de l'esprit. Ce sont les cadeaux que le Saint-Esprit peut faire à n'importe quel croyant, à n'importe lequel d'entre nous, l'Esprit peut faire des cadeaux. Est-ce que vous croyez cela? Le Saint-Esprit peut faire des dons, et c'est listé dans 1 Corinthiens 12, une parole de sagesse, une parole de connaissance, le don des guérisons, le don de foi, la prophétie, le don des langues, l'interprétation des langues, etc., etc. Le Saint-Esprit peut donner ses cadeaux à n'importe lequel d'entre nous, à un moment donné, mais dans un but. Paul va le dire, c'est pour l'édification de l'Église. Autrement dit, ces cadeaux ne sont pas faits pour nous. Si, eh bien, je prophétise, par exemple, le Saint-Esprit ne veut pas mettre en valeur Johan. Non, le Saint-Esprit ne veut pas me mettre en valeur en me faisant le cadeau. Il veut mettre en valeur l'Église. Le Saint-Esprit veut donner, élever, édifier l'Église. Ce n'est donc pas pour moi-même. Ce ne sont pas mes beaux yeux. Ce n'est pas, eh bien, pour que mon nom soit poussé en haut en disant « il y a un grand prophète, Johan ». Non, 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 non. C'est pour l'Église de Jésus-Christ. L'Église. On touche ainsi à l'œuvre que le Christ opère. Et quelle œuvre le Christ opère-t-il? Je bâtirai mon Église. Alléluia. Excusez-moi. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Nous avons vu ce passage déjà le premier culte du mois de août. Et dans ce passage, Jésus rappelle ce qu'il fait. Jésus ne fait pas, ne vous en faites pas, ce ne sont pas les anges. Hein. Jésus ne fait pas des choses pour lui-même. Si quelqu'un se demande ce que Jésus est en train de faire, Jésus n'est pas en train seulement eh bien, de contempler ou de... Non, Jésus bâtit son Église. Jésus n'est pas en train de faire quelque chose pour quelqu'un seulement, Jésus bâtit son Église. C'est ce qu'il fait. La Bible nous dit, et c'est Paul qui le dit dans Éphésiens chapitre 5, qu'il prépare son Église pour le grand jour. Alléluia. Qu'il prépare son épouse pour le grand jour. Le grand jour où il va venir la présenter à Dieu, alors l'Église sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Alors, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est justement là ce qui nous intéresse ce matin. Mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que l'Église gagne. Alléluia. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que les portes du royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, la force, la puissance du royaume des ténèbres, le diable et ses démons ne peuvent pas gagner contre l'Église. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être attaqué, malmené par le diable, par eh bien, des choses mauvaises? Si nous sommes l'Église, l'ennemi ne peut pas gagner. Ce n'est pas possible. L'Église est donc l'œuvre de Christ qui gagnera toujours. Toujours. Alors, quels sont les différents ingrédients qui font de l'Église une équipe qui gagne? Qu'est-ce qui nous permet de dire que l'Église est une équipe qui gagne? Premièrement, parce que l'Église est une équipe. Pardon. L'Église est une équipe. Alors, Je vous ai dit, on va comparer au golf. Et à cette journée, vous voyez, quand on a joué au golf, j'ai vu, parce que moi je ne connaissais pas, nous, le sport qui est le plus fameux chez nous en France et à l'île de la Réunion, c'est le football, le soccer. Hein. Et là, le but, c'est une cage. Hein. C'est une cage. Mais dans le golf, le but, c'est un trou. C'est beaucoup plus petit qu'une cage. Hein. C'est un trou. Et quand on est loin, on ne voit pas le trou. C'est pour ça qu'il y a un drapeau. Il y a un drapeau. Et quand on est de loin et qu'on doit viser, hein, on doit viser le drapeau, n'est-ce pas? Le trou, on ne le voit pas, mais le drapeau, on le voit. Le drapeau est donc le but. Notre but à nous en tant qu'équipe, l'Église, notre but, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le drapeau. C'est lui le drapeau. Et Paul nous invite à avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est lui. Il y a tellement de choses qui sont là pour accaparer nos regards. Mais Paul nous dit, ne regardez pas ailleurs, ne cherchez pas ailleurs. C'est Jésus. Alléluia. C'est Christ. Philippiens chapitre 3. Il ne veut pas rester tranquille, lui. Philippiens chapitre 3, verset 12. Et 13, voilà ce que Paul dit. Paul parle de son but à lui et il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, etc., etc., je cours. Je cours. Et qui est en avant? Il dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors je veux le saisir. Alléluia. Je veux le saisir. Qui est notre but? C'est Jésus. Frères, sœurs, chers amis, il s'agit de saisir non pas un idéal humain. Nous ne sommes pas chrétiens pour rechercher un idéal humain. Car ce n'est pas humainement que les choses se passent quand nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas là, eh bien, pour chercher comme but une meilleure version ou la meilleure version de nous-mêmes. On entend beaucoup cette expression un peu à la mode aujourd'hui, la meilleure version de moi-même. La meilleure version de moi-même ne m'intéresse pas. Je veux Jésus, alléluia. On veut Christ. Parce que si je cherche la meilleure version de moi-même, mes yeux sont sur moi. Mais si je cherche Jésus, mes yeux sont sur lui. Il ne s'agit pas de saisir un trophée, une récompense, un aboutissement dans un domaine de notre vie. Nous ne courons pas pour avoir une meilleure situation professionnelle. Oh, béni soit le Seigneur si on en a une. Mais ce n'est pas notre course en tant que chrétien. Nous ne courons pas pour avoir plus d'argent, nous ne courons pas pour avoir plus de biens matériels, nous ne courons pas pour avoir une situation plus confortable. Si le Seigneur nous accorde sa grâce, merci Seigneur. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas le but. Ce n'est pas le drapeau. Nous ne cherchons même pas une récompense, un aboutissement dans notre vie spirituelle. Spirituellement, je ne cherche pas à faire plus de choses, je ne cherche pas à faire plus de miracles, à faire ceci ou à faire cela. Le but, c'est saisir Jésus. Alléluia. C'est lui le but. Tout le reste vient après. Et si nous cherchons à saisir Jésus, tout le reste, nous le regardons comme de la boue. C'est ce que Paul va déclarer. Il va dire, je regarde toute chose comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 11, nous dit, à partir du verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, l'Église, équipe qui gagne, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Le but de l'Église, c'est quoi? Le but de chaque croyant qui compose l'Église, c'est quoi? La stature de Christ. C'est lui, alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. Afin que nos yeux soient sur lui. Il s'agit en somme de devenir une seule et même plante avec Christ, de lui être semblable. Il faut que lorsqu'on nous regarde, on ne nous voit plus, mais on voit Jésus. Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que Jésus grandisse et mes frères et mes sœurs, chers chrétiens de Centre Nouvelle Vie, il faut que ceux qui nous regardent voient Jésus. Et voilà pourquoi nous devons devenir comme Jésus. Voilà pourquoi Jésus est le but à atteindre. Alors, deuxième réalité qui concerne l'Église. Il y a différents fers, pas vrai? Différents. Quand j'ai vu, eh bien, je ne sais pas comment vous appelez ça, le sac dans lequel on met les clubs de golf, mais quand j'ai vu, je vous ai vu, eh bien, tirer ça partout, il y en avait certains, c'était téléguidé, hein, avec le remote, hein, ça avançait tout seul. J'ai dit, mais pourquoi tout ça? Si c'est pour taper dans une balle, un seul, ça suffit. Quand on joue au soccer, il n'y a que deux pieds, on n'a pas 15 pieds. Hein? Mais pourquoi tous ces fers? Pourquoi tous ces fers? Et mes coachs, Arthur, Monique, Roland, m'ont appris que chaque fer servait à un endroit, à une distance. De loin, c'était tel fer. Et de près, il faut prendre un autre fer. Et de tout près, il faut prendre encore un autre fer. Ce n'est jamais le même fer du début jusqu'à la fin. Il faut plusieurs, il en faut plusieurs. Mes frères, mes sœurs, dans l'Église, c'est la même chose. Il y a différents fers. Hein? Le 3, le 5, le 6, le 10. Il y a différents potes, différents clubs. Notre équipe, ce jour-là, vous voyez, ceux qui la composent, c'est la Dream Team. Hein? Arthur, Monique, Roland et votre serviteur. Plusieurs, une seule équipe qui progressait de cours en cours. 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, excusez-moi, je ne suis pas encore très bon dans le remote, ou je ne sais pas s'il a un souci, ça ne fonctionne plus. Bon. Voilà. Très bien, on va revenir. Voilà. On va revenir. Si quelqu'un peut prendre les commandes, je ne sais pas si vous pouvez le faire. Merci. Pardonnez-moi pour ce petit contretemps. On peut l'ouvrir ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 20. Qu'est-ce qui est dit? C'est pas plus mal. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 20. Voilà, il faut revenir à la partie d'avant. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen. Maintenant donc, il y a plusieurs fers, plusieurs membres, mais un seul corps. Plusieurs personnes, une seule équipe. Jouer en équipe, ce n'est pas jouer seul, n'est-ce pas? Sinon, il n'y aurait qu'un seul fer, du début jusqu'à la fin. Mais parce qu'il y a besoin d'un fer pour chaque situation, un fer différent, nous devons considérer non pas le fer, mais l'équipe. Plusieurs membres, un seul corps. Dans le sport, il y a les jeux en individuel et il y a les jeux en équipe. Le tennis, par exemple, c'est individuel. C'est un contre un. C'est individuel. Mais jouer au tennis, ce n'est pas comme jouer au hockey, par exemple. Le hockey, c'est une équipe. Il n'y a pas un seul joueur, il y a une équipe. Et quand il y a une équipe, on joue les uns pour les autres, n'est-ce pas? Et quand l'équipe gagne, ce n'est pas un seul qui a gagné, c'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe. En France, je vous disais, le football, ou ce que vous appelez le soccer, c'est un jeu d'équipe, le jeu le plus fameux. Et en France et en Europe, je ne sais pas s'il y en a qui suivent le soccer, est-ce qu'il y en a? Non? Un petit peu. Il y a une équipe, la meilleure équipe en France, hein, parce que c'est celle que je supporte, forcément c'est la meilleure équipe, qui s'appelle le PSG, le Paris Saint-Germain. Hein. Et c'est une équipe française qui a gagné la Ligue des Champions, c'est-à-dire la coupe de tous les clubs européens. Ils viennent de remporter leur première, la première de leur histoire, cette année, en 2025. Et il faut savoir que cette équipe a mis les moyens, il y a eu des investissements. Et pendant plusieurs années, depuis 2011, ils ont recruté les plus grandes stars du foot, puisqu'il y a eu des investissements. Ils ont eu beaucoup d'argent, donc ils ont recruté les plus grands joueurs. Il y a eu un grand joueur suédois qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic, il a été recruté en 2012, mais ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions en 2012. Il y a de grands joueurs, il y a eu, pour ceux qui connaissent Lionel Messi, il l'appelle le meilleur joueur de tous les temps, c'est un Argentin. Il y a eu des Brésiliens, Neymar, qui a joué au Paris Saint-Germain. Il y a eu même le meilleur joueur français en ce moment, Kylian Mbappé, qui joue maintenant au Real Madrid, en Espagne. Tous ces joueurs qui étaient là pour leur faire gagner la Ligue des Champions. Mais ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Et en 2024-2025, ça a été la première année où il n'y avait aucune star. Tous les meilleurs joueurs étaient partis. Et tout le monde a dit, ça va, l'équipe est en reconstruction, ils ne vont rien gagner cette année, ils vont prendre le temps de se reconstruire et de repartir parce que le coach, l'entraîneur, M. Luis Enrique, il était en train de retravailler le football dans ce club, dans cette équipe. Pas de stars, pas de Lionel Messi, pas de Neymar, pas de Kylian Mbappé, pas de Zlatan Ibrahimovic, pas tous ces grands joueurs. Il n'y avait que des jeunes, des tout jeunes. Et là, ils ont gagné la Ligue des Champions. Vous savez pourquoi? Parce que tant qu'il y avait des stars, le reste de l'équipe jouait pour les stars. Quand il y avait les stars, le grand Lionel Messi, les autres jouaient pour Lionel Messi. Quand il y avait Neymar, les autres jouaient pour Neymar. Quand il y avait Kylian Mbappé, les autres jouaient pour Kylian Mbappé. Et quand ces stars étaient là, si on ne jouait pas pour eux, si on ne leur donnait pas le ballon, ils n'étaient pas contents. Ils étaient en colère. Ils criaient sur les autres joueurs. « Tu aurais dû me passer, c'est moi qui devais marquer le but. Pourquoi ?» Pourquoi? Parce qu'en tant que star, ils voulaient avoir la première place. Ils voulaient, en sortant du match, être les premiers sur les photos, sur les journaux, à la télé. c'était des stars. Et quand ils ont quitté l'équipe, il n'y a plus eu de stars. Tout le monde jouait pour tout le monde. Tout le monde jouait pour l'équipe. Et là, ils ont gagné la Ligue des Champions. Là, ils ont gagné. Mes frères, mes sœurs, l'Église est une équipe. Pas des individus, une équipe. Et nous jouons les uns pour les autres. Alléluia. Et quand nous comprendrons que nous jouons les uns pour les autres, dans l'Église, il n'y a pas de star. La seule star, c'est Jésus. Mais Jésus ne va pas se montrer. Il est là, mais on ne le voit pas. Il n'y a pas de star. Il n'y a pas de superstar. Il y a une galaxy of stars. Toutes les stars sont là. Regardez, regardez autour de vous. Toutes les stars sont là. Et on joue les uns pour les autres. Chacun est important. Nous sommes tous importants. Mon frère, ma sœur, tu es important. Et nous voulons que tous gagnent, que l'équipe gagne, que l'Église gagne. Alléluia. La beauté de l'Église n'est pas son uniformité, mais sa diversité. Le but n'est pas que nous soyons tous les uns comme les autres. Nous devons tous être comme Jésus, oui. Mais le but, ce n'est pas que moi je sois comme toi et que toi tu sois comme moi. Non. Sinon, nous allons perdre notre richesse. Gardons nos différences. Gardons nos différences. Comme les clubs. Ils sont tous différents. Mais c'est avec tous les clubs qu'on gagne, n'est-ce pas? C'est avec tous. En prenant le bon club au moment où il faut. Nous ne sommes que des clubs. Hein? C'est qui nous tient? C'est le Seigneur. C'est qui nous prend dans ses mains? C'est le Seigneur. Et il prend le club qu'il faut au moment où il faut. Ne vous en faites pas, le Seigneur va gagner. Il va gagner, il ne peut pas perdre. Mais est-ce que j'aurais été le bon club au bon moment? Alors, c'est toute l'image du corps dans 1 Corinthiens 12. Paul va dire, vous le relirez chez vous parce qu'il est assez long, ce chapitre. Mais Paul va dire, dans le corps, il y a le pied, il y a les mains, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le nez, il y a tout. Et Paul, il va rajouter quoi? Mais si tout le corps était pied, hein? Vous imaginez ce matin, vous me voyez avec des pieds partout. Ma main, c'est un pied, ma tête, c'est un pied. Il y a les pieds partout. Vous me disiez, mais quel pied, hein? Tout est pied. Non, il y a le pied et il y a la main. Le pied me sert à marcher. Avec le pied, je ne pourrais pas saisir. Si eh bien, j'apprends les acrobaties et tout, peut-être. Mais naturellement, le pied n'est pas pour prendre quelque chose, c'est la main. Il y a beaucoup qui arrivent à marcher sur les mains, ils sont forts. Mais la main, son usage naturel, n'est pas la marche. C'est pour saisir. L'oreille, c'est pour entendre. Je n'arrive pas à sentir avec l'oreille. Hein, si je le fais, c'est pas l'oreille, c'est le nez. Comprenez? Mais par contre, je n'arrive pas à parler avec le nez. Il me faut la bouche. Hein? Chaque organe a son utilité. Chaque organe a son utilité. Et chaque organe est à la bonne place. Hein? Dans le corps, chaque membre est important de la même manière. Chaque membre. Et dans l'Église, tous sont importants. Nous y reviendrons lors de la réunion du service. Hein? Mais dans l'Église, tous sont importants et tous doivent servir le Seigneur. Tous. Alors, le jeu en équipe, c'est se réjouir ou souffrir ensemble. Hein? Le jeu en équipe, c'est quoi? De golf. Quand j'ai vu quelquefois à la télé, j'ai plus vu le côté individuel. Mais ce jour-là, quand nous avions joué, il y avait des équipes. Et quand nous avions joué en équipe, pardon, quand nous avions joué en équipe, on place tous la balle là où l'un d'entre nous s'est le plus rapproché du but. Vous avez vu? Chacun, on a notre balle, et tout le monde, on commence au point de départ au même endroit, et on swing, et la balle de chacun va à droite ou à gauche. Moi, ma balle à moi, elle est souvent là-bas. Pourtant, je disais bien, c'est là-bas, là-bas, dans ma tête, je pensais, là-bas, là-bas, et je tapais, et ça allait là-bas. Hein, ça allait là-bas. Très, très souvent, ça allait là-bas. Mais ensuite, quand j'allais récupérer ma balle, dans les bois, hein, quelque part, je ne retirais pas ma balle dans le bois. Je prenais ma balle et je la ramenais là où Roland avait poussé la sienne. Hein. Parce que lui, il avait mieux mis que moi, ou Arthur, ou Monique. Hein, ça n'était jamais à moi. Hein. Ça n'était jamais moi. Ça n'était jamais là où ma balle était arrivée, jamais. Mais je mettais la balle là où le membre de mon équipe avait le mieux réussi. Donc sa réussite devient ma réussite. Alléluia. Mais c'est beau, mon équipe. Si j'étais tout seul, j'aurais été dans la forêt. J'aurais été dans les bois. J'aurais joué au golf avec les orignales. Mais là, à chaque fois que ma balle se perdait, ah, il y avait un qui avait fait mieux que moi. Alors je prenais ma balle et je venais avec lui. Alléluia! C'est merveilleux. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alléluia. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement, frères et sœurs, chers amis, comme pour le golf, celui qui a amené sa balle le plus près, eh bien les autres en bénéficient. Mais si nous tous nous avons échoué, alors tout le monde va porter cet échec. Ce n'est pas l'échec d'une personne, c'est l'échec de l'équipe. Ce n'est pas la réussite d'une personne, c'est la réussite de l'équipe. C'est ainsi que le Seigneur voit son Église. Frères, sœurs, quand un réussit au milieu de nous, tous on se réjouit. Alléluia. Il n'y a pas de jalousie. Tous on se réjouit. Et quand un pleure au milieu de nous, tous nous pleurons. Nous portons la souffrance et le fardeau les uns des autres, et nous portons la joie les uns des autres. Il n'y a pas de compétition entre nous. La course chrétienne ne se fait pas contre mon frère ou contre ma sœur. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de regard de travers. On est dans la même équipe. On est dans la même équipe. Alors, jouons en équipe, courons en équipe. Après avoir vu donc cette facette de l'équipe, j'aimerais parler maintenant de ce qui est propre au sport en général, même au golf, mais aussi à la vie chrétienne, c'est la discipline, n'est-ce pas ? La discipline. Est-ce qu'on peut parler de sport sans discipline? Non, ça n'existe pas. Le sport sans discipline, ça n'existe pas. La vie chrétienne sans discipline n'existe pas. Parce que pour devenir des disciples, il faut de la discipline, n'est-ce pas? Dans discipline, il y a disciple. Alors, la discipline, et je l'ai noté, elle est selon la parole de Dieu. Elle dessine, elle fixe notre discipline, et nous allons voir ensemble. Alors, quand on parle de discipline, premièrement, on parle de règles et d'ordre. De règles et d'ordre. Paul va dire à Timothée, ah, ça ne s'est pas affiché, ce n'est pas grave. Alors, Paul va dire à Timothée, vous pouvez l'ouvrir, 2 Timothée chapitre 2 verset 5, 2 Timothée 2, 5. 2 Timothée 2,5. Et l'athlète, vous voyez, c'est le sport, hein, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alléluia. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il y a des règles. Paul est en train de dire à Timothée que dans la vie chrétienne, il y a des règles. Oh pasteur, je pensais que la vie chrétienne, je pouvais la vivre comme je comprenais. Je pensais que c'est la grâce, la grâce, la grâce, il n'y a pas de règles. Je peux faire ce que je veux, de toute façon je serai sauvé. Paul dit qu'il y a des règles. Il y a des règles. Comme le sport a des règles. Quand j'étais enfant, je regardais avec mes frères, avec mes grands frères, les championnats du monde d'athlétisme. Et parfois, on regardait les coureurs français dans la course de relais 4 fois 100 mètres. Vous savez, quand les coureurs vont, ils se passent le bâton et notre cours, etc., etc. La course de relais. Et les plus forts, c'était toujours les Américains. Et nous, on regardait à chaque fois au positionnement des Français. Et une année, lorsqu'on a regardé, il y avait les Américains qui étaient premiers, il y avait les Britanniques qui étaient seconds, il y avait les Australiens qui étaient troisièmes, et les Français quatrièmes. Or, vous savez qu'en athlétisme, il y a la médaille d'or pour le premier, pour le deuxième, la médaille d'argent, pour le troisième, la médaille de bronze, et pour le quatrième, rien, rien. Voilà. Donc nous, les Français, on n'avait rien. Et on se disait, zut. Il me fait du bruit, celui-là. Et on se disait, zut. Zut, c'est dommage. On a manqué à pas grand-chose. Quatrième. Et le lendemain, quand moi et mes frères, on a ouvert encore la télé pour la suite du championnat, puisqu'il y avait d'autres épreuves, on a vu que la France avait eu la médaille de bronze. On a dit, mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Et ils ont expliqué que finalement, les Britanniques avaient été disqualifiés. Parce qu'il y en avait un qui avait, en courant, qui avait marché sur la ligne. Mais pas grand-chose. La ligne, c'était ça, et son pied avait fait ça. Ça, sur la ligne. Mais vraiment pas grand-chose. Mais les jurés ont dit, c'est pas bon. Les Britanniques, ils ont porté plainte. Ils ont dit, mais on était deuxième, on mérite la médaille d'argent. Mais le CIO, le comité olympique, a dit, non, on ne peut pas vous donner la médaille d'argent. Mais monsieur, on a juste mordu un tout petit peu la ligne. Non, on ne peut pas vous donner. On est arrivé deuxième, on a couru vite. On ne peut pas vous donner. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Parce qu'il y a des règles. Nous pouvons bien courir. Nous pouvons être des chrétiens qui font des œuvres formidables. Mais si nous n'avons pas combattu selon les règles, arrivé en haut, on va nous dire non. Non. Vous vous rappelez Jésus qui leur disait qu'en ce jour, au jour de la fin, il y a de ceux qui s'approcheront pour entrer dans le ciel. Et Jésus leur dira non. Et ils vont dire, mais nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom, Jésus. Mais normalement, tu es d'accord avec nous si on a fait tout ça. Jésus a dit, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Ils avaient fait de grandes choses, mais à côté, ils ne vivaient pas selon les règles. Les règles sont pour tout le monde, frères, sœurs, chers amis. La parole de Dieu, elle est pour tout le monde. C'est la même parole pour moi, c'est la même parole pour chacun de vous. Ce sont les mêmes règles. Et si nous ne vivons pas selon la parole de Dieu, soyons gentils comme on veut. On n'ira pas au ciel. On ne gagnera pas. Et pire, Je répète, ces fameux Britanniques. L'équipe du relais 4x100 mètres, c'est 4 coureurs. Ils étaient une équipe de 4. À cause de un seul, qui enfreint la règle, toute l'équipe n'a pas gagné les médailles. Toute l'équipe a perdu. Nous ne réalisons pas toujours que si moi seul, en tant que chrétien, je ne vis pas selon la parole de Dieu, je suis en train de pénaliser l'équipe. Je suis en train de pénaliser l'équipe. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, l'armée d'Israël, était allé pour combattre une ville qui s'appelait Haï. Et justement, ils ont crié Haï parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Pourtant, c'était une petite ville. Il n'y avait pas un grand nombre de soldats. Ils se sont dit, on va gagner facilement, mais ils ont perdu. Pourquoi ? Parce qu'un seul homme qui s'appelait Achan, un seul homme avait péché contre Dieu. Un seul qui a péché, tout le peuple a perdu. Pourquoi ? Parce que c'est l'équipe et ce sont les règles. Le Seigneur n'a pas été d'accord avec Israël en entier parce qu'un seul avait péché. À partir des règles, on parle d'ordre. Et dans l'Église, il y a de l'ordre. Amen. Dans l'Église, il y a de l'ordre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il suffit de regarder le corps humain, comment il est constitué. Vous avez vu comment tout est en ordre. Hein? Tout est en ordre dans le corps humain. Il y a un ordre parfait. David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Parce qu'à un moment donné, il s'est regardé, il a dit, waouh, la main, il y a les doigts au bout. Il n'y a pas les doigts avant et la pomme après. Tout est en ordre. La tête est sur les épaules. Ma tête n'est pas sous mon pied. Hein? Tout est en ordre. Et tout fonctionne parce que tout est en ordre. Dans votre maison, tout est en ordre, n'est-ce pas? Quand vous allez dans la cuisine, vous savez où se trouvent les choses parce qu'il y a de l'ordre. Quand il y a du désordre, vous ne savez pas. Et alors, on n'est pas en paix. Hein? On est en train de s'inquiéter. Mais où est-ce que j'ai mis la spatule? Hein? Où est-ce que je l'ai rangé encore? Qui l'a touché? Qui a touché? Hein? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Vous savez, l'Église est ce qu'elle est par la grâce de Dieu. Mais quand il n'y a pas d'ordre, il y a de l'inquiétude. Il n'y a pas la paix. Quand il n'y a pas d'ordre, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, pas de désordre. Alors, la discipline implique une position et un geste. Là, ce sont mes pieds. Hein? La Bible nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Mais là, vous les voyez. Là, vous les voyez. Et je ne sais pas si vous voyez bien le club. Ça, c'est le club pour les tout derniers centimètres. Hein? Pour pousser la balle vers le trou alors que c'est tout prêt. La position, ça on me l'a appris. Genoux légèrement pliés, comme je vous l'ai dit, main droite devant main gauche sur le club. Le pouce en avant, on regarde la balle, on ne regarde pas la balle, on regarde la balle, on regarde la balle, et après on swing. Et à chaque fois, on me le répétait, on me le répétait, on me le répétait. Parce qu'il n'y a pas 50 positions, il y en a une seule. Et à chaque fois, quand j'ai réessayé, je faisais comme ça. Le frère me disait, attends, les genoux. Ah d'accord, ok, les genoux. Non, non, tu tiens mal. Ah d'accord, je tiens bien. Regarde, je faisais comme ça. Regarde la balle. D'accord, je regarde la balle. Je regarde la balle. Et à chaque fois, on me le répétait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 36 positions. Il n'y a pas 36 gestes. Il y a une position, il y a un geste. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, il est dit que c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou l'amour selon vos traductions. Tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Bien coordonné et formant un solide assemblage. La position est solide. Et la coordination, c'est le geste. Le geste. Notre position solide, elle est en Christ. Alléluia. Paul va dire aux Éphésiens que nous sommes assis en Jésus-Christ à la droite de Dieu dans le ciel. Alléluia. Nous sommes sur la terre, hein, nous nous voyons les uns les autres, mais notre position spirituelle est en Christ. Voilà pourquoi nous gagnons. Alléluia. Parce que notre position est en Christ. Notre geste, et j'aime bien ce je vais revenir en arrière, j'aime bien la photo, vous voyez, derrière, il y a les trois petits cercles, 1, 2, 3. Et je ne me souviens plus, c'est Arthur ou Monique qui m'ont expliqué que ces trois cercles doivent être alignés avec la balle. Hein? L'alignement doit être parfait. Pour que la balle aille dans la direction qu'il faut, il faut que les trois cercles soient alignés avec la balle. Frères, sœurs, notre geste doit consister en un alignement avec le Seigneur qui lui aussi est trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Seigneur, il nous montre la direction et nous devons nous aligner avec le Seigneur. Alléluia. Le Père nous montre une direction, le Fils nous montre la même direction, le Saint-Esprit nous montre la même direction. Les trois ne vont pas aller dans trois directions différentes. 1, 2, 3, et moi je viens m'aligner. Alléluia. Autre ingrédient qui est important également, il y a des fois où on discutait, on n'avait pas vu que ça pouvait être Roland, ça pouvait être Monique, ça pouvait être Arthur, qui étaient en train de se concentrer. Et alors on nous disait, chut, chut. Monique m'expliquait, il ne faut pas parler pendant que quelqu'un va tirer. Il ne faut pas parler. Chut, chut. Je me concentre. Exode chapitre 14, verset 14. Voilà ce que Moïse va dire au peuple. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. 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 Pourquoi silence? Dans le peuple de Dieu, pourquoi est-ce qu'on parle de silence? C'est pas quand on loue le Seigneur. C'est pas quand on acclame le Seigneur. C'est pas ça. Le silence, parce que est-ce que vous êtes déjà posé la question, Israël, qui tant de fois est tombé, tant de fois est tombé, tant de fois a échoué, pourquoi Israël a échoué à chaque fois? Vous allez me dire, à cause des idoles? Oui, c'est une cause. À cause de la désobéissance? Oui, c'est une cause. Mais la Bible nous dit qu'à chaque fois, dans chacun des échecs d'Israël, il y a un dénominateur commun. Les murmures. Whispers, hein? Les murmures. Ils murmuraient contre Dieu. Ils murmuraient contre Moïse. Ils murmuraient contre Aaron. Ils murmuraient. Dans Exode 14, verset 14, c'est le tout début de leur périple. Ils quittent l'Égypte et ils vont traverser la mer Rouge. Seulement quand ils arrivent devant la mer Rouge, ils voient une mer infranchissable. Et quand ils se retournent, ils voient l'armée de Pharaon qui arrive pour les tuer. Problème devant, problème derrière. Où est-ce qu'on va? Alors, dans l'agitation, ils sont commencés à dire, « Moïse, pourquoi tu nous as conduits ici? L'Éternel veut nous tuer ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à murmurer, à murmurer. Et c'est là où Moïse va dire, « Mais l'Éternel combattra pour vous, vous, gardez le silence. Chut, gardez le silence. » Quand ils sont arrivés de l'autre côté de la mer Rouge, il n'y avait pas d'eau. Ils avaient soif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont murmuré. À un moment donné, ils n'avaient pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont murmuré. À un moment donné, ils ont fait ceci, cela. Ils sont arrivés à la frontière de la terre promise au bout de quelques jours. Ils n'ont pas pris des années. Quelques jours. Ils sont arrivés. Enfin le pays de la promesse. Enfin le pays de l'abondance. Le pays où on va se reposer. Le pays où coule le lait et le miel. Enfin. Enfin. Mais ils ne sont pas entrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont murmuré. Ils ont murmuré. C'est un peuple qui s'est habitué à murmurer. On parle du sport, hein ? Le sport en France, c'est plus le soccer. Le sport au Canada, c'est plus le hockey, le golf. Le sport d'Israël, c'était murmurer. Hein ? Ils murmuraient. Alors, je ne sais pas s'il y a de ce sport aussi au Centre Nouvelle Vie, chez Diac. Hein ? Je ne sais pas. Je n'espère pas. Voilà, n'espère pas. Mais la Bible nous demande parfois de faire silence. Alléluia. Quand l'inquiétude vient, quand la crainte vient, faisons silence dans notre cœur. Alléluia. Parce que Dieu va combattre pour nous. Mais si on parle, et si on dit des choses qui ne conviennent pas à la foi, alors ça se peut que Dieu, à un moment donné, dit « je ne peux pas agir ». Parce que celui-là ne croit pas. Mais si on fait silence dans notre cœur, Dieu peut agir. Alléluia. Le silence, le silence. Alors, et puis, bien sûr, la progression. Ça, c'est ma balle. Ça, c'est ma balle. Et sur ma balle, il y a mon nom. Noodle. C'est moi. Noodle. Parce qu'en golf, je suis un noodle. Hein? Une vraie nouille. Mais qu'est-ce que j'étais nul. À chaque fois, j'essayais, j'y arrivais pas. À un moment donné, je regarde ma balle, je vois Noodle. Ah, j'ai dit, c'est moi. C'est moi. Noodle. Noodle. Seulement, à un moment donné, en passant à un autre cours, j'ai réussi un coup. Et les autres m'ont dit, c'est bien, enfin, alléluia, c'est bien. Et à un moment donné, ma balle est partie dans le bois, elle s'est perdue. Noodle. Et quand je suis allé chercher ma balle, je suis allé chercher, j'ai pu trouver dans le bois, mais j'ai trouvé une autre balle. Cette fois, c'était plus Noodle, c'était Dunlop. J'avais progressé. Et au bout, alors que ma balle s'était mélangée aux autres, Arthur et Monique m'ont dit, ne t'en fais pas, pour souvenir, on te laisse une balle. Ils ont pris une balle, ils me l'ont donnée. Cette fois, c'était plus Noodle. C'était plus Dunlop. C'était Nike. Hein? C'était la récompense. C'est une image, hein, pour vous dire que nous devons toujours progresser. Paul va dire à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, tout entier, afin que tes progrès soient évidents. Alléluia. Que tes progrès soient évidents. Évidents. Tout à l'heure, nous avons dit que nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres, et c'est vrai. Mais s'il y a une compétition, c'est moi contre moi. C'est moi contre moi. Souvent, nous pensons que ce sont les autres qui sont des problèmes. Souvent, nous pensons aussi que c'est le diable qui est un problème. C'est pas faux. Mais nous oublions que très, 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 très souvent, nous sommes les plus grands problèmes. Je constitue un problème pour moi-même, à moi de progresser et de me dépasser. Alléluia. Alors, on va essayer d'aller vite jusqu'à la fin, puisque le temps passe. Un moteur, le Saint-Esprit. Une équipe, l'Église. Une règle, c'est la parole. Et un moteur, le Saint-Esprit. Dieu va dire au prophète, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Par mon esprit. 2 Corinthiens 12, versets 12 à 13. 1 Corinthiens, pardon, 12, versets 12 à 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, et ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Il dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit pour former un corps. Comment pouvons-nous vivre l'équipe ? Par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre la parole, les règles, on a vu la semaine dernière la vérité. Nous ne pouvons pas vivre la parole sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre ensemble sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Dès que quelqu'un va nous embêter, on sera en colère. Dès que quelqu'un fera quelque chose qui ne nous plaît pas, on ne sera pas content. Mais si on est rempli du Saint-Esprit, on va agir différemment. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il donné le Saint-Esprit ? Pour que nous puissions vivre l'Église, frères et sœurs. Pour que nous puissions vivre l'Église. Parce que si on vit l'Église par la chair, nous ne tiendrons pas. Par le Saint-Esprit. La victoire de l'équipe sera celle du Saint-Esprit sur chacun de nous. Si le Saint-Esprit arrive à gagner sur moi, alors je gagnerai par le Saint-Esprit dans l'équipe. Alléluia. Dans l'équipe et pour l'équipe. C'est alors que l'Esprit produira et nous permettra de produire ce qui est nécessaire à la victoire de l'équipe. Qu'est-ce que l'Esprit produit en nous ? Premièrement, l'amour. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul. Et pour être une équipe qui gagne, il faut nous aimer les uns les autres. Nous avons besoin d'amour. Paul va dire, et j'aime bien ce passage dans Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 3, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Et la fin résume tout le reste. « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Amen. L'unité. Dans le corps, il y a besoin d'unité, oui ou non ? Oui. L'unité de l'esprit. Nous devons la conserver. Alléluia. C'est-à-dire que je dois faire tout pour être un avec mes frères et mes sœurs. Le terme grec ici utilisé pour s'efforcer, la racine de ce terme signifie agoniser. Vous vous rendez compte ? C'est comme si que la parole de Dieu nous dit agonise. Agonise s'il le faut, mais il faut garder ce lien. Alléluia. Agonise. Quand quelqu'un agonise, c'est qu'il va mourir. N'aie pas peur d'agoniser, mais il faut que ce lien d'amour reste. Alléluia. Ce que l'Esprit produit en nous, deuxièmement, c'est la joie. La joie. Néhémie chapitre 8, verset 10, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Amen. La joie du Seigneur. On peut être triste, mais la tristesse ne doit pas être notre moteur. Est-ce qu'un chrétien n'est jamais triste ? Si c'est vrai, nous ne sommes pas chrétiens du tout. Hein ? Personne n'est chrétien ici si un chrétien n'est jamais triste. Bien sûr qu'on peut être triste, mais la tristesse n'est pas mon moteur. La tristesse n'est pas mon engine. Hein ? Ce n'est pas la tristesse qui me fait avancer, c'est la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur va venir dans mon cœur, même s'il y a la tristesse. La joie du Seigneur va venir et va me donner la force d'avancer. Alléluia. La joie du Seigneur n'est pas une hypocrisie. La joie du Seigneur, ce n'est pas coller un smiley ici, hein, en disant « ça va, oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Si ça ne va pas, ça ne va pas. Vaut mieux dire « frère, prie pour moi, ça ne va pas. Et la joie du Seigneur va venir dans mon cœur. Le frère, la sœur prie pour moi et le Saint-Esprit va me donner la joie du Seigneur. Je prie la joie du Seigneur. C'est une force qui nous fait avancer. Alléluia. Et enfin, ce que fait le Saint-Esprit, ce que produit le Saint-Esprit en nous, c'est l'encouragement. Voyez là comment le frère Roland est en train de m'encourager, hein ? Il est en train de me dire « vas-y, hein ! » Et le frère Roland, il, à chaque fois, il me dit « ouais !» Ouais ! Et il chante pour moi « avec Dieu, nous ferons des exploits !» À chaque fois, il m'encourageait. Et l'encouragement vient du Saint-Esprit. Dieu m'encourage par le Saint-Esprit. Pardon. L'encouragement personnel, quand je me tiens devant Dieu, Dieu m'encourage. L'encouragement mutuel, quand j'encourage quelqu'un, ça vient du Seigneur. Quand quelqu'un m'encourage, ça vient du Seigneur. Alléluia. Dans l'équipe, s'encourager vient du Seigneur. Il y avait un autre sport que j'aimais aussi pratiquer quand j'étais jeune, c'était le volleyball. Hein. Et quand je regardais les matchs de volley, j'étais étonné parce que même quand ils rataient le point, quand ils réussissaient le point, ce match, bam, ils réussissaient, tout le monde se tapait dans les mains en faisant comme ça, c'est bien. Mais même quand ils rataient le point, ils se tapaient dans les mains. Je disais, mais pourquoi ils se tapent dans les mains? Ils ont raté. Ils ne se criaient pas dessus, ils ne se tapaient pas dessus, ils s'encourageaient. Même quand ils n'y arrivaient pas, ils s'encourageaient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous encourage. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos faiblesses, mais il veut nous encourager. Alléluia. Alors, j'aimerais terminer ce matin. L'Église, équipe qui gagne. Et en conclusion, j'aimerais juste souligner, si vous le permettez, les différences. On a vu les points communs entre l'Église et le golf. J'aimerais quand même souligner les différences. Premièrement, l'Église, équipe qui gagne, n'est pas engagée dans un jeu pour le fun. Le golf, c'est un jeu pour le fun. Mais l'Église est engagée dans un véritable combat spirituel de tous les jours. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour le fun. Nous sommes là pour combattre. Et on va gagner. Alléluia. On va gagner. L'Église, équipe qui gagne, ne connaît pas de concurrent, comme on l'a dit tout à l'heure, mais a un adversaire, le diable. Nous avons un adversaire. Il a été vaincu par Jésus à la croix, mais nous devons le vaincre. Alléluia. L'Église, équipe qui gagne, pardon, aime de toute l'affection du Seigneur. L'affection de Dieu est dans nos cœurs pour que nous aimions. Mais l'Église ne peut pas faire de sentiments. Car comme on l'a dit dimanche dernier, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a toujours une différence entre l'amour de Dieu et le sentiment. Quand on fait du sentiment, parfois ça peut être de la faiblesse. Mais quand on aime de l'amour de Dieu, c'est une force. C'est une force. Et enfin, l'Église, équipe qui gagne, elle ne sera jamais applaudie. Elle ne sera jamais acclamée. Elle ne sera jamais adulée par le monde. Le monde aime ce qui est à lui. L'Église ne sera jamais applaudie. Jésus a dit, ne vous en faites pas, s'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais l'Église est la seule qui héritera le ciel pour l'éternité. Alléluia. Ça, c'est l'équipe qui gagne. Voulons-nous être de cette équipe qui gagne? J'aimerais vous inviter à vous incliner là où vous êtes. Et nous allons prier le Seigneur ensemble. Pardonnez-moi si ce matin j'ai été un peu plus long qu'à l'accoutumée, mais je crois qu'il était important pour nous de partager ces choses. Alors que nous nous tenons devant Dieu, j'aimerais prier. chacun de nos cœurs est devant Dieu. Soit nous sommes dans l'équipe qui gagne, soit nous faisons bande à part. Soit nous nous regardons à nous-mêmes, soit nous regardons à Jésus. Et si nous regardons à Jésus, nous voyons l'Église de Dieu. Alléluia. Si je regarde à moi-même, je suis un égoïste. Mais si je regarde à Jésus, je vois l'Église. Si je regarde à moi-même, je vois ma victoire. Mais si je regarde à Jésus, je vois la victoire de l'Église. Où en est notre cœur? De quoi nous nourrissons-nous? Est-ce que la parole de Dieu est toujours là où il faut, comme il faut? Ou est-ce que nous nous sommes laissés emporter à droite ou à gauche? Est-ce que je vis pour l'Église ou est-ce que je vis pour moi-même? J'aimerais que l'on prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre pour toi. Nous voulons, Seigneur, non pas nous conformer, nous satisfaire d'une chose ou d'une autre dans ce monde, mais nous voulons nous satisfaire de toi, Jésus. Tu es notre but, tu es notre source, tu es tout pour nous, Seigneur. Manifeste-toi à nos cœurs et par ton esprit, remplis l'Église ce matin, Seigneur. Remplis-nous dans le nom de Jésus. Restons dans le recueillement, si vous voulez bien, et partageons ce chant ensemble. Alléluia.